RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Il y a 70 ans, jour pour jour, la Seconde Guerre mondiale s'achevait par la capitulation sans condition du Troisième Reich. Quelques jours après le suicide d'Adolf Hitler dans son bunker en plein cœur, Berlin en ruine, eh bien le régime nazi rendait les armes après avoir mis l'Europe à genoux au terme d'un conflit qui aurait fait des dizaines de millions de morts. Depuis la libération d'Auschwitz, fin janvier 1945, le monde découvrait les images de camps de concentration et l'horreur de la Shoah, un crime inédit par son ampleur et son caractère industriel. Après une dénazification plus que partielle, l'Allemagne se concentre sur sa reconstruction et refoule ce passé avant d'effectuer à partir des années 60 un travail de mémoire internationalement reconnu. 70 ans plus tard, alors on en est où? Quel rôle joue cette mémoire dans la conscience collective de l'Allemagne d'aujourd'hui? Le poids des 12 années sombres du Troisième Reich constitue-t-il toujours un fardeau pour les Allemands d'aujourd'hui? Ou bien les plus jeunes générations veulent-elles, peuvent-elles seulement s'émanciper, se libérer de ce passé, malgré tout toujours omniprésent? C'est le sujet du grand reportage de notre correspondant en Allemagne, Pascal Thibault, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
La Helmstetter Straße est une rue paisible de Berlin aux immeubles cossus. Devant les des bâtiments, une plaque a été fixée récemment au mur à côté de l'entrée. On peut y lire « Dans cette maison vivaient jusqu'à leur déportation et leur assassinat ». Une phrase suivie de 62 noms, 62 anciens locataires juifs déportés à Auschwitz, Theresienstadt, Sobibor ou Treblinka, d'où ils ne revinrent jamais. Birgit von Pflug, une des habitantes de l'immeuble, a effectué pendant 3 ans avec ses voisins des recherches sur le destin tragique de ceux qui avaient habité dans les mêmes appartements sous le Troisième Reich.
Nous qui habitons aujourd'hui dans la même maison, nous voulions savoir qui étaient ces personnes et ce qui leur était arrivé. C'est un sujet qui nous concerne en Allemagne depuis nos premiers cours à l'école. Nous en avons toujours parlé et nous y avons souvent réfléchi. Cela nous a permis, à travers ces destins individuels, de rendre l'histoire, de rendre leur histoire plus visible.
Des initiatives privées comme celle-ci, loin de la mémoire officielle, il en existe beaucoup en Allemagne. Dans le même quartier où vivaient de nombreux juifs avant la guerre, des petites pancartes accrochées aux panneaux de signalisation rappellent les persécutions subies. Les juifs sont exclus des associations de chants. 16 août 1933, peut-on ainsi lire. Devant des maisons, des pavés de la mémoire, des Stolpersteine, comme on en trouve des milliers en Allemagne, rappellent sur le trottoir la mémoire d'une personne déportée qui vivait dans l'immeuble voisin. À quelques kilomètres de là, en plein cœur historique de Berlin, les lieux de mémoire officiels renvoient le promeneur à chaque coin de rue à se passer. Le Reichstag, incendié juste après l'arrivée au pouvoir de Hitler, et sur lequel les forces soviétiques hissèrent leur drapeau rouge en mai 45, de nombreux mémoriaux parsèment les environs pour les victimes de la Shoah, juifs, homosexuels, sexuels, tziganes, handicapés, des bâtiments préfabriqués est-allemands se dressent là où s'élevait la chancellerie de Hitler, des touristes s'agglutinent devant un panneau livrant des explications sur le bunker où le Führer se suicida le 30 avril 1945.
Au-delà du néo-nazi,
Klaus Petersik, historien.
Cette fin de ce régime monstrueux et de ces personnages diaboliques continue à susciter un intérêt. Et en particulier cette fin de Hitler à laquelle on pense quand on est ici sur ce terrain où il y avait le 30 avril 1945 les cadavres de Hitler, de Eva Braun. Ce souci de la mise en scène accouplé à la monstruosité suscite un intérêt légitime qu'on sent particulièrement ici, à cet endroit énigmatique.
Hitler et son entourage fascinent. Hitler sells, Hitler vend, affirme un peu cyniquement certains. Le succès de documentaires, mais aussi de films de fiction, comme La Chute il y a 10 ans, sur les derniers jours du Führer dans son bunker, en témoigne. Pas un jour ne se passe sans qu'un documentaire sur cette période soit diffusé à la télé, et ces jours-ci, ils abondent. Guido Knopp est un peu le pape du documentaire historique en Allemagne. Avec son équipe, il a, sur la chaîne publique ZDF, durant des années, produit de très nombreux films sur le Troisième Reich.
Es ist viel gemacht worden. On a beaucoup fait, peut-être trop même. Les jeunes gens ont parfois en Allemagne l'impression que ça suffit. Ce qui n'empêche pas les chaînes lors des anniversaires comme ces jours-ci de diffuser de nombreux programmes sur le sujet ou de se répéter.
Cette omniprésence du Troisième Reich à la télévision traduit le caractère central de cette époque pour la mémoire allemande. Les nombreuses commémorations, le rôle de ces 12 années à l'école en sont autant d'illustrations. Et cela permet d'expliquer certaines prises de position de Berlin aujourd'hui, comme par exemple la forte résistance des Allemands à l'égard d'interventions militaires à l'étranger ou la retenue du gouvernement sur de telles opérations, l'historien Klaus Peterzig.
Le problème avec le nazisme, c'est que cette prise de distance est et restera difficile dans la mesure où la Shoah reste impossible. Pas seulement dans les discours officiels, mais aussi, je dirais, ça va dans l'identité de tous ceux qui sont allemands. Le républicanisme allemand d'aujourd'hui n'est pas possible sans cette mémoire du nazisme.
À Berlin, le mémorial pour les Juifs d'Europe assassinés, inauguré il y a exactement 10 ans, est un symbole impressionnant de cette omniprésence du passé. Grand comme 3 terrains de football, à 2 pas de la porte de Brandebourg, il invite le visiteur à errer à travers les 2700 stèles de béton gris de différentes hauteurs installées sur un terrain vallonné. Le vice-directeur de la fondation responsable du mémorial, Ulrich Baumann.
On entre ce mémorial, on devient partie de ce mémorial, on a des émotions entre les stèles, entre dans les ruelles, on peut dire. L'autre but, c'est de créer un lieu qui est ouvert à la interprétation. Je pense que c'est très important aussi que les fils et filles et grands-fils et grands-filles des gens qui ont été responsables pour les crimes ont un lieu pour la commémoration des victimes et qu'on parle des victimes en Allemagne parce qu'il y a 40 ans, 50 ans où on n'a pas parlé des victimes.
Si plusieurs mémoriaux existent en plein cœur de Berlin, certains groupes sont tombés dans l'oubli, notamment les 27 millions de civils massacrés par les nazis dans l'Europe de l'Est occupée durant la Seconde Guerre mondiale. Pour en savoir plus sur cet aspect moins connu, il faut se rendre au musée germano-allemand de Karlshorst dans l'ancien Berlin-Est. Cette ancienne caserne est un lieu historique où la capitulation sans condition du Troisième Reich, signée la veille à Reims en France, le fut à nouveau symboliquement dans la capitale de l'Allemagne nazie vaincue. La nouvelle exposition met en avant la vision de la guerre des soviétiques et les souffrances effroyables subies par les civils. Un passé qui illustre une mémoire différente entre les parties Est et Ouest de l'Allemagne, aujourd'hui encore. Margot Blank.
Je crois que le rôle joué par l'Union soviétique était et demeure plus connu dans l'ex-RDA. Cela s'explique par le fait que le régime communiste l'a plus mis en avant. L'Allemagne communiste, en tant qu'État antifasciste, se considérait comme étant du côté des vainqueurs. En RFA, c'était différent. Tout d'abord, on était plutôt tourné vers l'Ouest. On ne savait pas beaucoup et on ne voulait pas trop savoir sur la guerre à l'Est, car les crimes qui y ont été commis avaient une dimension sans égale.
Une différence Est-Ouest qui a laissé des traces 25 ans après la chute du mur entre l'ex-RDA et la République fédérale, où le refoulement des 20 premières années fut ensuite remplacé par un profond travail de mémoire, l'historien Klaus Peterzig.
On a pu se dire en RDA que l'Allemagne était du bon côté, du côté des libérateurs, du côté des antifascistes. Et que donc, par conséquent, on n'avait pas à se poser des questions sur ce passé. De l'autre côté, il y avait, dans les années 50-60, des tentatives d'échapper à ce passé. La situation est devenue différente à partir de la fin des années 60. Il y avait un travail sur l'histoire profond et qui a mené à une véritable remise en question du propre passé.
Allemands de l'Est et de l'Ouest se rejoignent en tout cas aujourd'hui sur leur interprétation du 8 mai 1945, perçue comme une libération du nazisme. Cela avait toujours été la perception de la RDA antifasciste, intimement liée aux vainqueurs soviétiques, qui ne se percevait pas comme l'héritière du Troisième Reich et n'a d'ailleurs, contrairement à Bonn, jamais indemnisé les victimes du nazisme. À l'Ouest, on a longtemps perçu la fin de la guerre comme un écroulement. Le discours historique du président Richard von Weizsäcker marqua un tournant il y a 30 ans.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung.
Le 8 mai a été une journée de libération. Nous avons été libérés du système de terreur national-socialiste. Nous n'avons pour autant aucune raison de participer aujourd'hui à des fêtes de la victoire, mais nous avons toutes les raisons de considérer le 8 mai 1945 comme la fin d'une folie de l'histoire allemande, comme une journée qui apporte avec elle l'espoir d'un avenir nouveau.
L'avenir en 2015, ce sont les plus jeunes générations pour lesquelles le Troisième Reich appartient quasiment à la préhistoire, même si cette époque, à l'école, dans les médias et dans la topographie urbaine allemande, reste très présente. Dans une cour de l'ex-Berlin-Est, une des rares à ne pas avoir été rénovée, on peut aller au cinéma ou faire la fête dans un bar déjanté. On y trouve aussi l'ancien atelier d'Otto Weid où des aveugles fabriquaient des brosses destinées avant tout à la Wehrmacht. Otto Weid, en soudoyant souvent les nazis, a sauvé le plus longtemps possible de nombreux juifs de la déportation. De l'autre côté de cette cour, sombre et décrépite, on trouve le centre Anne Frank. La jeune juive n'a jamais vécu à Berlin, mais à Francfort, puis à Amsterdam. Mais le centre veut informer, surtout les plus jeunes, sur le destin de la jeune fille déportée à la fin de la guerre. La classe qui s'y rend ce matin-là ne vient pas d'un lycée bien sous tout rapport. Ces jeunes adolescents en difficulté ne vont plus à l'école, mais sont pris en charge directement par des enseignants, dont Elisabeth Schrören, qui a pris l'initiative de cette visite.
Nous avons actuellement de nouveau beaucoup de racisme et d'exclusion. C'est important pour moi de développer la tolérance. On peut la prendre comme la démocratie. Et je voudrais y contribuer. J'espère que la vie d'Anne Frank, qui avait à peu près l'âge de nos jeunes, les touche, qu'ils comprennent ce que signifie l'exclusion et qu'ils se lèvent pour la combattre et incitent d'autres jeunes à en faire de même.
Le message est-il passé ?
Je ne dirais pas que j'aurais pu être à sa place, mais je suis impressionné. Elle a écrit son livre qui est très connu. Elle est morte jeune et c'est dommage, sa vie a été dure. Ça pourrait se reproduire, mais aujourd'hui, je ne crois pas. La situation politique est beaucoup plus stable.
Un autre jeune, lui, a préféré dormir dans un coin de l'exposition. D'autres se sont chamaillés au milieu des photos de croix gammées et de camps de concentration, et d'autres ne sont pas convaincus.
C'est ennuyeux, pas intéressant, on a déjà vu tout ça à l'école. C'est énervant parce que c'est toujours la même chose, c'est du passé. Bien sûr, on peut savoir des trucs, mais sans être baratiné en permanence.
Est-ce que ces deux jeunes garçons auraient préféré aller voir un spectacle d'Oliver Pollack ? Le jeune cabarettiste juif joue beaucoup dans ses spectacles de ses origines. Les spectateurs ne savent souvent pas trop s'ils doivent rire de ses blagues sur l'Holocauste ou se contenter d'un sourire poli.
Tout va très vite aujourd'hui. 3 minutes sur Facebook, 4 minutes sur YouTube, vous prenez un livre. Par exemple, le journal d'Anne Frank. Et à la page 11, vous vous dites « Bon, lentement, les nazis pourraient débarquer ».
Oui, aujourd'hui, même en Allemagne, on peut rire du nazisme et de Hitler, comme dans le film « Mon Führer » qui tourne le personnage en dérision. Hitler, au bout du rouleau, a recours au service d'un acteur juif de renom libéré pour l'occasion d'un camp de concentration.
Pourquoi vous ne vous défendez pas ? Pourquoi le juif ne se défend-il pas ? Pourquoi vous vous laissez déporter sans résistance ? Vous n'avez pas de rage, pas de cran, vous êtes trop lâche.
Le livre best-seller de l'auteur Timur Vermes, Il est de retour, paru également en français, qui raconte de façon humoristique le comeback de Hitler aujourd'hui, va être porté à l'écran, son auteur.
Tout ce que dit Hitler est par définition mauvais. Quand je le laisse raconter ses réflexions sur le monde d'aujourd'hui et qu'elle recoupe les nôtres, nous sommes obligés de nous interroger, car nous ne voulons pas penser la même chose que lui.
Le livre de Timur Vermes traduit l'intérêt qui subsiste pour cette période, mais aussi le besoin du grand public d'un accès moins académique. L'historien Klaus Petersik.
Il y a un savoir très vague sur la dictature, sur ses leaders, sur ses monstruosités, et il y a un besoin d'en savoir plus. Ce qui gêne les élèves, les étudiants d'aujourd'hui, c'est un moralisme-là. Ce qu'ils souhaitent, c'est d'en savoir plus, parce que la monstruosité même de cette histoire est bien trop évidente.
Pour cette transmission du savoir, et pour de nouvelles formes, la télévision comme le cinéma joue aujourd'hui un rôle essentiel. Le documentariste Guido Knopp.
La jeune génération d'aujourd'hui ne doit pas dire « nous sommes collectivement coupables ». Bien sûr qu'ils ne le sont pas, mais il y a une responsabilité collective. Et pour pouvoir dire plus jamais ça, il faut savoir ce qui s'est passé. Et la télévision reste pour cela le média le plus efficace.
Les habitants de l'immeuble dans la Hemstetter Straße, eux, ne veulent pas oublier. Sarah Serebrinski, une des locataires actuelles, elle-même juive, a été très touchée par l'initiative de ses voisins.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, alors j'étais très touchée par nos voisins. Tout le monde était impliqué dans cette initiative. C'est très remarquable, je pense. L'Allemagne fait beaucoup et a beaucoup fait pour la mémoire, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais ça suffit maintenant !» Et ça, je pense que ça, c'est faux. S'il y a une nouvelle génération qui commence à parler et à penser comme ça, ça peut être dangereux.
Son voisin, Michael Zasse, lui, a été particulièrement touché que l'initiative ait pu déboucher sur l'invitation d'une famille de descendants d'anciens locataires ouvrière juive de l'immeuble, déportée il y a plus de 70 ans.
Madame Josp nous a raconté qu'elle avait longtemps évité tout contact avec l'Allemagne. Elle a été touchée de l'accueil qu'elle a rencontré lors de sa visite et elle est rentrée heureuse en Israël. Nous avons contribué à notre niveau à la compréhension entre nos peuples.
70 ans après, quelle mémoire en Allemagne ? Un grand reportage de Pascal Thibault, réalisation Jérémy Besset.
Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Pascal Thibault, vous êtes à Berlin pour RFI, vous êtes l'auteur de ce grand reportage pour en savoir davantage, ou en tout cas un peu plus sur la mémoire allemande 70 ans après. Pascal, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors on l'a compris à travers votre reportage, l'Allemagne a accompli un travail de mémoire impressionnant et le nazisme joue toujours un rôle central dans son identité. Mais on a aussi compris, en écoutant les jeunes que vous avez rencontrés, que tout cela est un peu loin d'eux. Et pas seulement pour eux peut-être.
Oui, c'est vrai, les sondages le montrent, les Allemands ne souhaitent plus que leur histoire se résume au Troisième Reich et que cette période écrase tout le reste. Un sondage publié au début de l'année montrait ainsi que les trois quarts des Allemands pensent qu'il faut laisser l'histoire en paix et se tourner vers les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Ils sont même 55% à affirmer que 70 ans après, il faut tirer un trait sur le passé et ne pas parler autant de la Shoah. Un pourcentage plus élevé chez les plus jeunes que chez les plus âgés. Mais au total, ce chiffre n'augmente pas si on le compare aux résultats d'une même enquête menée il y a 25 ans, juste après la réunification. Et le nombre d'Allemands émettant un avis contraire, donc en faveur d'un travail de mémoire à maintenir autour de ce passé, a doublé depuis le début des années 90. Et les lieux de mémoire, depuis cette période, attirent toujours plus de visiteurs, bien qu'ils soient toujours plus nombreux.
Alors, ce poids du passé explique pour une bonne part que l'Allemagne, contrairement à d'autres pays européens, ne connaisse pas de mouvements populistes ou d'extrême droite importants. Pour autant, tout n'est pas rose dans ce pays aussi brun.
Oui, c'est vrai. D'un côté, aucun parti extrémiste n'a jamais siégé au Bundestag, par exemple. La Constitution permet d'ailleurs l'interdiction de mouvements politiques, ce qui s'est produit deux fois dans les années 50 contre un parti nazi et un parti communiste. Mais on assiste actuellement à la montée en puissance de l'Alternative pour l'Allemagne, au départ un mouvement eurosceptique, mais où les tenants d'une ligne plus radicale s'impose de plus en plus. Et puis il y a eu les manifestations ces dernières semaines de Pegida, ce mouvement anti-islam qui a beaucoup fait parler de lui. D'autres manifestations ont eu lieu contre des foyers de demandeurs d'asile, alors que leur nombre doit encore battre des records cette année en Allemagne. Certains bâtiments ont d'ailleurs été incendiés. Et les toutes fraîches statistiques pour 2014, présentées mercredi, montrent une augmentation de 25% des actes antisémites l'an dernier et plus globalement une augmentation des agressions de l'extrême droite contre des étrangers.
Alors au centre de cette mémoire du Troisième Reich qui capitulait il y a 70 ans jour pour jour, il y a bien sûr la Shoah et la mort de 6 millions de juifs organisés et planifiés minutieusement par le régime nazi. L'Allemagne d'aujourd'hui va célébrer dans quelques jours le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques avec Israël.
Alors ces relations étaient des plus complexes après la création de la République fédérale, lorsqu'on a par exemple négocié les réparations importantes versées par l'Allemagne de l'Ouest après l'Holocauste. Les Israéliens qui la maîtrisaient refusaient par exemple à parler la langue de leurs anciens bourreaux, l'allemand. Des poignées de main furent évitées. 70 ans après, les temps ont bien changé. Les Israéliens n'ont jamais été aussi nombreux à apprécier l'Allemagne, avec 68% d'opinions positives. Le président israélien Reuven Rivlin, qui arrive dimanche en Allemagne, vient de déclarer « Nos relations actuelles sont l'exact opposé du sombre passé que signifie l'histoire allemande pour le peuple juif. Cette amitié n'a été possible que parce qu'en Allemagne, on a assumé ses responsabilités pour le passé. » Le nombre d'Israéliens, surtout des jeunes, critiquent de la politique de leur plusieurs pays qui s'installent à Berlin augmente de façon exponentielle, 70 ans après la fin de la Shoah. Dans l'autre sens, en revanche, il faut bien le dire, un certain désamour se développe dans l'opinion des Allemands à l'égard d'Israël, et le conflit israélo-palestinien explique largement cette évolution.
Ce sera le mot de la fin, un grand reportage, bien évidemment, à réécouter en intégralité sur rfi.fr. Pascal Thibault, merci beaucoup.